Thank you so much. That was wonderful. I just want to remind everyone that the next presentation will be in French, and the staff will be distributing the helmets, the headphones, for anyone who would need a translation. And again, our next presenter, Marie-Anne Saint-Gerais, will speak on social networking and psychotherapy.
Alors, bonjour tout le monde. Je vais me présenter un petit peu avant de débuter, le temps que vous puissiez aussi mettre le truc de, pour la traduction simultanée. Alors, aujourd'hui, la présentation va être sur le réseautage social et la psychothérapie. Dans le cadre de ma pratique, je travaille beaucoup avec une clientèle de jeunes adultes, des étudiants universitaires notamment, qui sont âgés en moyenne entre 18 et 25 ans. Donc, c'est sûr que cette génération-là a grandi avec Internet. Quand on parle avec un jeune de 18 ans, on peut facilement imaginer que ce jeune-là n'a jamais vraiment connu qu'est-ce que c'était un monde sans Internet. Alors, un peu comme moi, j'ai jamais connu un monde sans télévision. Alors, les jeunes adultes d'aujourd'hui et les adolescents ont donc appris à communiquer, à se faire des amis, à entretenir des relations en ayant des possibilités supplémentaires que nous, on n'avait pas nécessairement, donc la possibilité de pouvoir le faire en ligne. Donc, c'est maintenant évident que les nouvelles technologies nous ont permis d'avoir des nouvelles façons d'apprendre, de se divertir, de travailler, mais bien entendu aussi de communiquer. Et bien entendu, la psychothérapie n'échappe pas à ces bouleversements-là. Alors, dans cet atelier, on va s'intéresser au phénomène du réseautage social, mais en le regardant, dans le fond, sous l'angle de la psychothérapie. Donc, au niveau des conflits d'intérêts, il n'y a pas de conflit d'intérêts à déclarer pour l'actuelle présentation. Je vous présente un peu le plan de la présentation. Donc, on va premièrement regarder un peu les motivations qui amènent les usagers de Facebook à utiliser Facebook. On en a parlé un peu dans les présentations précédentes, mais on va faire un bref survol. Ensuite, on va regarder comment l'utilisation du réseautage social peut être un outil pour la thérapie, puis comment aussi ça peut devenir un problème. Ben, qu'est-ce qui motive les gens à utiliser Facebook? De façon générale, ce qui ressort au niveau des recherches, c'est sûr que un des buts de Facebook, c'est de garder les gens en contact. Donc, c'est ce qui amène habituellement les gens à utiliser Facebook, passer le temps quand les gens s'ennuient, également pour se divertir, pour diffuser ou regarder des photos des personnes qui sont dans les contacts. Et aussi pour rencontrer des fois certains nouveaux amis ou retrouver, je dirais, d'anciens amis, le classique, là, la personne qu'on a rencontrée au primaire et qu'on retrouve par le biais de Facebook. Ceux qui n'ont pas de compte habituellement, tout simplement, ils rapportent qu'ils désirent pas nécessairement avoir de compte ou ils considèrent qu'ils n'ont pas le temps ou que c'est tout simplement une perte de temps. En 2008, il y a Sheldon qui a étudié l'utilisation de Facebook. Puis bon, il y a comme deux prédicteurs qui sont ressortis là au niveau de l'utilisation de Facebook, dont le fait d'utiliser Facebook pour se divertir ou pour passer le temps. Les résultats montrent aussi que les personnes qui ont tendance à être anxieuses dans les communications en face à face ont tendance à utiliser beaucoup plus Facebook pour passer le temps puis pour se sentir moins seules aussi. Il y aura aussi moins d'amis dans les contacts Facebook comparativement aux autres. Par le passé, on disait souvent que les personnes anxieuses avaient tendance à utiliser les communications médiatisées par ordinateur pour former là, des relations en ligne. Par rapport à Facebook, ça serait peut-être un peu différent. C'est sûr que il y a une très grande différence entre l'établissement des relations par les sites de clavardage, je dirais, d'autrefois, versus les sites de réseautage social comme Facebook. Un des premiers buts de Facebook, c'est, dans le fond, d'être en contact souvent avec des gens qu'on connaît déjà. Alors, imaginez si quelqu'un est un peu plus anxieux sur le plan social, et qu'elle n'a pas nécessairement un réseau social très élargi, mais on peut facilement imaginer que son réseau social sur Facebook va s'en sentir également. Les sites comme Facebook ont mis de côté l'aspect de l'anonymat dans les communications. C'est un aspect qui a souvent été répertorié dans la littérature et c'est sûr que ça caractérisait là, en grande partie les communications médiatisées par ordinateur, par exemple au niveau des sites de clavardage ou des forums de discussion. Par exemple, quand on souhaite s'inscrire à Facebook, on demande habituellement à ce que la personne publie son nom réel au lieu d'un pseudonyme. Donc, c'est bien évident que ça expose davantage les individus. Alors, pour une personne qui est anxieuse socialement, elle ne peut pas nécessairement bénéficier de cet aspect-là via les sites de réseautage social. Il y a aussi le fait que les personnes qui sont moins enclines à se dévoiler ou à communiquer dans la vie réelle auraient aussi moins tendance à le faire. Donc, c'est sûr que le dévoilement de soi, c'est une compétence qui est très importante là, pour la formation des amitiés. Donc, c'est sûr que s'il n'y a plus nécessairement l'aspect de l'anonymat, donc c'est clair que les personnes qui sont plus anxieuses sur le plan social pourraient peut-être avoir un peu plus de difficultés à tolérer le jugement des autres par rapport à ce qu'ils expriment. Donc, on voit bien que, bon, Facebook et les sites de réseautage social, on connaissent actuellement une immense popularité et c'est sûr que ça a des impacts au niveau de la psychothérapie également. Alors, on va essayer de voir sous quelles avenues là, on peut utiliser ces sites-là et quoi garder en tête, dans le fond, pour éviter de tomber dans certains pièges. Pour certaines difficultés au niveau social, comme l'anxiété sociale, les difficultés d'affirmation de soi ou les personnes qui ont des difficultés au niveau des habiletés sociales, l'utilisation des sites de réseautage social pourrait, dans le fond, s'intégrer à certains exercices en thérapie. Comme je le disais tout à l'heure, les personnalités, les personnes qui ont tendance à être plus anxieuses, le fait de pouvoir apprendre à se dévoiler en ligne pourrait s'avérer, dans le fond, bénéfique pour eux. Donc, ça pourrait leur permettre de créer, de maintenir des relations d'amitié, puis tolérer un peu plus le jugement des autres là, qui peut être, dans le fond, qui peut se manifester à travers ces sites-là. Donc, comment ça peut se présenter, dans le fond, ça pourrait être d'essayer de faire des exercices en amenant la personne à faire des requêtes pour intégrer, dans le fond, des nouvelles personnes à sa liste d'amis, de contacts, pour rédiger, par exemple, des messages, pour proposer des activités. Les habiletés sociales pourraient aussi être intégrées ou initiées en ligne avec le guide ou le soutien du psychologue. Ah! On me demande de parler plus lentement. Donc, je vais essayer de parler un peu plus lentement. Alors, je disais que... donc, c'est ça, les habiletés sociales peuvent être initiées en ligne, notamment là en faisant des exercices peut-être dans le cadre de la thérapie où le psychologue pourrait amener là, certaines ou développer certaines habiletés sociales avec l'aide du patient. Parce que c'est sûr que un peu comme dans la vie réelle, en ligne, c'est pas toujours approprié de dire de tout dire en tout temps. Là, donc ça permettrait de travailler ces aspects-là. Les individus qui ont des problèmes au niveau de l'affirmation de soi aussi pourraient en bénéficier, donc apprendre à faire certaines demandes, à formuler des critiques par rapport à des situations qui seraient dérangeantes. Bien, c'est sûr que le fait de le faire par écrit au départ, ça peut faire en sorte de permettre à la personne de se pratiquer, un peu comme dans des jeux de rôle lors de la thérapie ou dans un cadre plus sécurisant où la personne peut essayer de pratiquer des nouvelles habiletés. Donc, le fait de le faire en ligne, ça peut être un aspect intéressant. Malgré que les sites de réseautage social puissent avoir des avenues intéressantes au niveau de ce type d'exercice-là, par exemple au niveau des exercices d'exposition pour des situations sociales, mais dans un contexte en ligne, c'est très important, par contre, de ne pas considérer que ça puisse être la seule et unique avenue au niveau du traitement. ça serait, à mon sens, un très grand piège que de se lancer uniquement dans ce type d'exposition-là ou d'exercice-là. Donc, rapidement, la personne doit passer dans un contexte de vie réelle pour être capable aussi de travailler ces aspects-là, puis pas nécessairement maintenir les difficultés sur le plan social. Donc, moi, je le vois, dans le fond, comme une amorce au traitement pour établir des bases préliminaires. Dans les médias sociaux ou le réseautage social, on retrouve également les blogs. Donc, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à voir c'est quoi la différence entre les blogueurs et les non-blogueurs. Et ce qui est ressorti, bon, ils ont évalué selon les cinq traits du Big Five, donc qui sont l'ouverture d'esprit, les aptitudes consciencieuses, l'extraversion, l'amabilité, le névrosisme, donc la tendance à la névrose. Et les résultats ont permis de montrer que les blogueurs, habituellement, avaient un niveau élevé au niveau du névrosisme, donc qui fait référence à une certaine instabilité émotionnelle, aux inquiétudes, un peu plus à une personnalité anxieuse, et aussi des traits un peu plus élevés au niveau de l'ouverture d'esprit, donc ce qui est peut-être pas étonnant étant donné que c'est une nouvelle forme d'expression, puis l'ouverture d'esprit, ça va rechercher d'habitude ces dimensions-là, donc des personnes qui sont plus créatives, qui aiment la nouveauté. Au niveau du névrosisme, ben c'est sûr que les blogueurs pourraient, dans le fond, écrire ou se dévoiler en ligne pour, soit essayer de créer des nouvelles relations, mais aussi pour essayer d'apaiser ou de soulager certaines souffrances. En ce qui concerne le contenu, aussi, il semble que les blogueurs ont tendance à dévoiler beaucoup d'informations personnelles à propos de leurs relations, à propos d'eux-mêmes, à propos de ce qu'ils vivent au niveau dans leur vie en général. Alors, comment on peut arrimer ça peut-être en thérapie et quoi garder en tête pour éviter de tomber dans certains pièges? Alors, pour certains, les blogs sont considérés comme une sorte de journal intime là, où on peut s'exprimer et obtenir du soutien social. Les vertus thérapeutiques, aidantes, bénéfiques de l'écriture sont plus à démontrer. Là, on en a beaucoup parlé dans la littérature. Donc, le fait d'écrire, ça peut entraîner un sentiment d'autonomie, donc d'empowerment. Ça peut permettre à la personne de soulager aussi ou d'être même exaltée par la suite. Donc, l'écriture, c'est une voie qui est non négligeable là, au niveau de l'expression. ces bénéfices-là, nécessairement, ça peut s'appliquer au blog. Donc, malgré ces bénéfices-là, c'est important que, en thérapie, si la personne décide d'utiliser ce médium-là, que le psychologue ou le thérapeute amène le client à réfléchir aux conséquences de ce qui pourrait être divulgué en ligne. Donc, essayer de poser, je dirais, la question à la personne, de lui demander, si un de tes proches lisait ce que tu as écrit, ben je dirais ça peut s'appliquer au blog, mais également à des sites comme Facebook. Donc, si la personne concernée ou si un proche lisait ce que tu as écrit, comment toi tu te sentirais? Donc, pour que la personne puisse faire le lien entre la vie réelle et la vie la vie virtuelle, voir qu'il y a un lien entre les deux et que, étant donné que l'anonymat n'est plus nécessairement là dans ce type de médium-là, qu'il peut avoir des conséquences au fait de dévoiler certaines informations. La désinhibition dans les communications aussi, on en a parlé, puis ça s'appliquait également dans les communications médiatisées par ordinateur, et ça amenait souvent les personnes, des fois, à dévoiler des informations qu'ils ne souhaitaient pas nécessairement dévoiler dans la vie réelle. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui peut venir jouer dans la tenue d'un blog. Il y a l'aspect aussi qui peut être, qui est à considérer, qui est ça peut libérer la personne de se dévoiler ou d'écrire des choses sur son blog, mais le fait aussi d'être lu et d'être commenté par d'autres, des fois ça peut exposer cette personne-là à un certain sentiment de vulnérabilité ou de l'avoir l'impression d'être peut-être surexposée. Donc ça, c'est à garder en tête. Au niveau de l'impact à long terme du dévoilement des informations, c'est sûr qu'il y a un caractère permanent à la diffusion de certaines informations qui peut être néfaste à la fois pour un blogueur ou pour un usager de Facebook. Par exemple, publier une photo de soi à l'âge de 16, 17, 18 ans, Tout dépendant de la photo, ça peut être quelque chose d'amusant ou de rigolo, mais la même photo diffusée dans 40, ben, disons, à l'âge de 40 ou 50 ans, quel impact ça va avoir? Je pense notamment à des personnes qui deviendront des personnalités publiques, comme des politiciens, et où les journalistes ont tendance à rechercher souvent les faux pas de ces personnes-là. Donc, comment ces sites-là vont devenir une source peut-être assez riche d'informations, ce qui, dans le fond, amène la personne à perdre un peu le contenu de l'information, perdre un peu le contrôle sur le contenu, c'est-à-dire de l'information qui est dévoilée, qui est diffusée. Ça me fait penser aussi à des comportements en ligne, par exemple, chez les adolescents qui rejoignent un peu comme le cybersexe, où des fois les jeunes adolescents ou adolescentes publient ou diffusent des vidéos à caractère sexuel et oublient que d'un vidéo, on peut tirer des milliers de photos, puis un coup que l'information est diffusée, il n'y a plus de retour en arrière possible, puis c'est d'assumer les conséquences par la suite. Je vais sauter le dévoilement de soi du psychothérapeute, on en a parlé un peu tout à l'heure, donc je vais passer tout de suite au réseautage social, puis au comportement plus associé au narcissisme. Tout à l'heure aussi, mon collègue en a parlé un peu. Donc, c'est sûr qu'il y a certains éléments de la personnalité qui, des fois, peuvent venir jouer ou qui peuvent venir amener une utilisation problématique là, du réseautage social. Donc, il y a une étude qui s'est intéressée à savoir comment le narcissisme pouvait se manifester à travers l'utilisation de Facebook. Je serais très intéressée à avoir des données aussi pour les personnalités histrioniques où il y a une quête souvent au niveau de l'attention, personnalité un peu plus théâtrale ou dramatique. Donc, ça pourrait être intéressant aussi de voir qu'est-ce qui ressortira à ce niveau-là. Mais donc, par rapport à cette recherche-là, en fait, je vous donne un petit peu un résumé là, des traits de personnalité narcissique. Donc, c'est généralement un type de personnalité qui a souvent le besoin d'être admirée, où il y a un manque d'empathie. La personne a un peu l'impression d'être spéciale, d'être unique. Un peu l'idée que tout lui est dû et donc qui envie les autres et qui a souvent l'impression aussi que les autres l'envient. Donc, c'est un peu ce qui résume là, les traits de personnalité narcissique. Et les résultats de cette étude-là sont très intéressants parce qu'il semble qu'il y aurait un lien entre une corrélation positive entre le narcissisme et le nombre d'amis, ainsi que le narcissisme et le nombre d'amis sur Facebook, là, bien entendu, et le nombre de messages aussi postés sur la page Facebook. Les auteurs expliquent ces résultats-là en mentionnant que les personnes narcissiques peuvent développer, dans le fond, ont tendance à développer des relations plus superficielles, donc ce qui est possible de faire facilement par l'entremise de Facebook, surtout quand le nombre d'amis est très élevé. Les sites de réseautage social aussi, dans une certaine mesure, permettent de contrôler le contenu qui est diffusé à propos de soi, par exemple. Donc, quelle photo on décide de publier, quel statut on décide d'écrire. Et les personnes narcissiques pourraient utiliser ces sites-là pour se montrer sous un jour plus favorable. Le fait aussi que les messages, qu'il y ait beaucoup de messages postés sur le site ou diffusé sur la page de l'utilisateur, ça peut aussi représenter une certaine forme de popularité ou de notoriété. Donc, en thérapie, en sachant ces éléments-là, je pense que c'est important quand des clients présentent des traits de personnalité plus narcissiques, peut-être d'aller voir comment ça s'exprime, ces traits-là, et si ça s'exprime à travers justement des comportements associés soit à l'utilisation d'Internet ou à l'utilisation des sites de réseautage social. Comme je le disais tout à l'heure aussi, dans le cadre de ma pratique, je travaille avec une clientèle étudiante, alors qui dit étudiant dit souvent procrastination. Donc, c'est un thème par excellence là, que j'entends et que je discute assez régulièrement. Donc, pour faire un rappel, la procrastination, c'est le fait de remettre les choses au lendemain. Donc, il s'agit dans le fond d'une incapacité pour l'individu à agir dans le but de faire une tâche ou de faire une action. Donc, c'est pas nécessairement d'éviter de faire complètement la tâche, mais plutôt de retarder le moment de commencer à faire la tâche ou de compléter la tâche. Donc, si une tâche paraît soit difficile, ennuyante ou qu'il y a un risque de ne pas être capable de la faire selon les critères qu'on s'est fixés initialement, ou de ne pas pouvoir, s'il y a un risque d'échouer, la tâche est perçue de façon plus démotivante ou désagréable, puis ce qui peut amener, dans le fond, l'évitement qui est associé à la procrastination. Alors, souvent, la procrastination, c'est un problème qui est au niveau de la gestion du temps, au niveau de la planification. C'est pas que les gens sont pas capables de faire la tâche comme telle, mais c'est comment organiser le temps, comment l'organiser dans l'horaire qui devient un problème. Ce que j'ai pu observer dans le cadre de ma pratique, c'est souvent que les gens vont utiliser soit les sites de réseautage social comme Facebook ou d'autres applications d'Internet, qu'elles soient interactives ou non, ou les jeux, pour, dans le fond, repousser le moment pour commencer certaines tâches. Donc, je pense qu'à ce moment-là, quand ça se présente en thérapie, ce qui est important, c'est de revenir un peu à la base de comment on arrive à traiter la procrastination, c'est-à-dire, essayer de voir au niveau de l'organisation, planification, gestion du temps. Et à ce moment-là, sûrement que ça va pouvoir aider la personne à réduire ses comportements-là. En conclusion, je pense que c'est important que les professionnels de la santé mentale soient au courant des difficultés qui peuvent être associées avec soit l'usage d'Internet ou l'usage des nouvelles technologies, mais aussi les bénéfices que ça peut apporter. Souvent, des fois, on n'a pas beaucoup d'occasions pour en entendre parler, puis je trouve que dans le cadre de la conférence ces jours-ci, je trouve que c'est une avenue qui est importante à conserver, puis qui va aider sûrement les professionnels de la santé à mieux connaître ces phénomènes-là, puis à voir comment on peut s'en servir en thérapie. Alors, ça complète pour ma présentation. Merci.